Chapitre 13. Le lendemain, le duc était assis dans sa bibliothèque. La plume demeurait droite et immobile dans sa main, comme un soldat qui n'attend qu'un ordre pour se mettre en mouvement. La porte s'ouvrant lentement, laissa apercevoir la belle tête d'un enfant de 10 ans qui disparaissait presque au milieu d'une forêt de boucles noires. « Papa Carlos, dit-il, êtes-vous seul? Puis-je entrer ?»« Depuis quand, mon cher Angèle, répondit son père, as-tu besoin de permission pour entrer dans mon appartement ?»« Depuis que vous ne m'aimez plus autant qu'autrefois, répondit l'enfant en s'appuyant sur les genoux de son père. Et cependant, je suis bien sage, j'étudie bien avec Don Frédéric, comme vous me l'avez dit, et pour vous le prouver, je vais parler allemand. » Vraiment, dit le duc en prenant son fils dans ses bras. C'est très vrai, écoutez. Gott sein meinen lieben Vater. Ce qui veut dire que Dieu bénisse mon bon père. Le duc serra dans ses bras le charmant enfant. Celui-ci, penchant en arrière, ajouta « Und mein liebe Mutter », ce qui veut dire « et ma chère mère ». « Maintenant, donnez-moi un baiser », poursuivit l'enfant en se jetant au cou du duc. « Mais, dit-il soudain, j'oubliais que j'apporte un billet de Don Frédéric. »« De Don Frédéric ?» dit le duc étonné. « Et il dit qu'il voudrait vous parler. » « qu'il entre, va le lui dire, mon enfant. Son temps est trop précieux pour qu'il le perde. » Le duc garda dans ses mains le papier sur lequel quelques lignes étaient écrites, et Stein entra. « Monsieur le duc, lui dit-il, je vais vous causer une grande surprise, car je viens prendre vos ordres, vous remercier de toutes vos bontés pour moi, et vous annoncer mon départ immédiat. »« Votre départ ?» s'écria le duc avec l'expression de la plus vive surprise. « Oui, monsieur le duc, et sans aucun retard. »« Sans retard, et Maria ?»« Maria ne vient pas avec moi. »« Allons, Don Frédéric, vous plaisantez, c'est impossible. »« Ce qui est impossible, monsieur le duc, c'est que je reste ici. »« Pour quelle raison ?»« Ah, ne me la demandez pas, car je ne puis la dire. » « Je n'en puis concevoir une seule, dit le duc, qui puisse justifier une pareille folie. Elle doit pourtant être bien impérieuse pour me forcer à prendre un parti aussi extrême. » « Mais, mon cher Stein, quelle peut être cette raison ?»« Je dois la taire. »« Comment, vous devez la taire ?» s'écria le duc dont la surprise allait augmentant. « Je le crois du moins, dit Stein. » Et ce devoir me prive de l'unique consolation qui me restait, celle de décharger mon cœur dans celui de l'homme noble et généreux qui m'a tendu sa main puissante et a daigné m'appeler son ami. Et où allez-vous ? En Amérique. C'est impossible, Stein, je vous le répète, c'est impossible, s'écria le duc avec une agitation de plus en plus grande. Il ne peut rien y avoir au monde qui vous oblige à abandonner votre femme, à vous séparer de vos amis, et à planter là votre clientèle comme pourrait le faire un écervelé. Avez-vous de l'ambition? Vous a-t-on promis de plus grands avantages en Amérique? Stein sourit amèrement. Des avantages, monsieur le duc? La fortune n'a-t-elle pas surpassé toutes les espérances qu'ait pu nourrir votre pauvre compagnon de voyage? Vous me confondez, dit le duc. Est-ce un caprice? Est-ce un accès de folie? Stein se taisait. « Dans tous les cas, ajouta le duc, c'est un acte d'ingratitude. » En entendant ce mot, cruel et affectueux à la fois, Stein se couvrit le visage de ses deux mains et sa douleur, longtemps comprimée, éclata en violents sanglots. Le duc s'approcha de lui, lui prit la main et lui dit « Il n'y a pas d'indiscrétion à décharger ses peines dans le cœur d'un ami. » Et il ne peut y avoir aucun devoir qui interdise à un malheureux de recevoir les conseils de ceux qui s'intéressent à son bonheur, surtout dans les circonstances graves de la vie. Parlez, Stein, ouvrez-moi votre cœur. Vous êtes trop agité pour agir de sang-froid. Votre raison est trop troublée pour pouvoir vous inspirer sûrement. Asseyons-nous sur ce divan. Abandonnez-vous à mes conseils dans une circonstance qui me paraît d'une gravité particulière, comme j'aurais recours au vôtre si je me trouvais dans le même cas. Stein se sentit vaincu. Il s'assit près du duc et tous deux gardèrent quelque temps le silence. Stein semblait chercher comment il ferait la révélation qu'exigeait l'amitié du duc. Enfin, levant lentement la tête, il dit « Monsieur le duc, que feriez-vous si madame la duchesse ne vous aimait plus ?» Le duc se leva d'un bond, le front menaçant, et regarda sévèrement son interlocuteur. « Monsieur le docteur, cette demande !»« Répondez-moi ! Répondez-moi !» s'écria Stein en se tordant les mains dans l'attitude d'un homme accablé par la douleur. « Par Jésus !» dit le duc, « elle périrait de ma main !» Stein baissa la tête. « Moi, je ne la tuerai pas, dit-il, mais je me laisserai mourir. » Le duc commença alors à soupçonner la vérité et un frisson qu'il ne put réprimer s'empara de lui. « Maria ! » s'écria-t-il à la fin. « Maria ! » répondit Stein sans relever la tête, comme si l'infamie de sa femme l'accablait d'un poids impossible à supporter. « Et vous l'avez surprise ?» dit le duc, pouvant à peine prononcer ces mots, tant sa voix était étranglée par l'indignation. « Dans une véritable orgie, répondit Stein, dans une orgie aussi grossière qu'éhontée, dans laquelle le vin et le tabac tenaient lieu de parfum, pendant que le torero Pepe Vera se vantait d'être aimé d'elle. Ah, Maria, Maria » ajouta-t-il en se couvrant le visage avec les mains. Le duc, comme tous les hommes fortement trempés, avait beaucoup d'empire sur lui-même. Il fit quelques tours dans l'appartement, puis, s'arrêtant devant son pauvre ami, il lui dit « Partez, Stein !» Ce dernier se leva et serra les mains du duc dans les siennes. Il voulut parler, mais il ne le put pas. Le duc lui ouvrit les bras. « Courage, Stein !» lui dit-il, « et au revoir !»« Adieu, et pour toujours !» murmura Stein, puis il se précipita hors de l'appartement. Quand le duc fut seul, il se promena longtemps en long et en large. Puis, à mesure que vint à se calmer l'agitation produite dans son âme par la révélation que venait de lui faire Stein, le sourire du mépris vint plisser ses lèvres. Ce mépris étouffa toute affection dans son cœur, comme la neige éteint sur l'autel la flamme de l'Holocauste. La femme qu'il avait chantée dans ses vers et dont l'image l'avait séduit dans ses rêves n'existait déjà plus. « Et moi, disait-il, qu'il adorait comme un être idéal, qu'il honorait comme on honore la vertu, qu'il a respecté comme la femme de mon ami. Et moi qui, entièrement captivé par elle, m'éloignais de la noble femme qui fut mon premier, mon seul amour, de la pure, de la chaste mère de mes enfants, de ma Léonore qui a tout supporté en silence sans se plaindre. » Par un mouvement soudain et cédant à la puissante influence de ses dernières réflexions, le duc sortit de sa bibliothèque et se dirigea vers les appartements de sa femme. Il y entra par une porte secrète. En s'approchant de la pièce dans laquelle la duchesse avait l'habitude de passer la journée, il entendit parler et prononcer son nom. Alors il s'arrêta. « Comment se fait-il que le duc est devenu invisible ?» disait une voix aigre-douce. « Il y a 15 jours que je suis arrivée à Madrid, et non seulement mon cher neveu n'a pas daigné venir me voir, mais je ne l'ai même pas aperçu nulle part. »« Ma tante, il est possible qu'il ignore votre retour. »« Ignorer que la marquise de Gatibamba est arrivée à Madrid, c'est impossible, ma nièce. Ce serait la seule personne de la cour qui n'en serait pas instruite. D'ailleurs, tu as eu plus que le temps nécessaire pour le lui dire. » « C'est vrai, ma tante, c'est un oubli dont je suis coupable. »« Mais il n'y a rien d'étonnant à cela, » continua la voix aigre-douce. « Comment pourrait-il goûter ma société et celle des personnes de son rang quand tout le monde dit qu'il ne fréquente plus que des comédiens ?»« C'est faux !» répondit sèchement la duchesse. « Ou tu es aveugle ?» dit la marquise exaspérée. « Ou tu y donnes ton consentement ?» Ce à quoi je ne consentirai jamais, dit la duchesse, c'est à laisser la calomnie venir attaquer mon mari ici, dans sa maison et aux oreilles de sa femme. Tu ferais mieux, reprit la voix qui devenait de plus en plus aigre. Tu ferais mieux d'empêcher ton mari de donner lieu à tout ce qu'on dit à Madrid sur sa conduite que de le défendre en éloignant d'ici tous tes amis avec cette âpreté et ces réponses blessantes que tu as préparées sans doute d'avance par l'ordre de ton confesseur. Et vous, ma tante, répondit la duchesse, vous feriez mieux de consulter le vôtre sur le langage qu'on doit tenir à une femme mariée, à votre nièce. C'est bien, dit la Gattibamba, ton caractère austère, froid et concentré en lui-même t'a déjà enlevé le cœur de ton mari. Il finira par éloigner de toi tous tes amis. Et la marquise sortit très satisfaite de sa péroraison. Léonore resta assise sur son sofa, la tête inclinée et son beau et pâle visage baigné de larmes qu'elle avait longtemps réussi à retenir. Tout à coup, elle se retourna en poussant un cri. Elle était dans les bras de son mari. Elle éclata alors en sanglots, mais ses larmes étaient douces. Léonore savait que cet homme franc et loyal, en revenant à elle, lui rendait son cœur et un amour sincère que personne ne lui disputait plus. « Ma Léonore, voudras-tu et pourras-tu me pardonner ? » dit-il en se laissant tomber aux genoux de sa femme. Elle couvrit de ses belles mains les lèvres de son mari. « Vas-tu, lui dit-elle, gâter le présent avec le souvenir de ce qui est passé ?»« Je veux, dit le duc, te dire mes torts, que le monde a d'ailleurs jugé avec trop de sévérité. Mais je veux aussi que tu connaisses ma justification et mon repentir. »« Faisons une convention, dit la duchesse en l'interrompant. Ne me parle jamais de tes torts et je ne te parlerai jamais de mon chagrin. » En ce moment, Angèle entra en courant. Le duc et la duchesse s'éloignèrent vivement l'un de l'autre par un mouvement spontané. Car en Espagne, où le langage est souvent fort libre, on use d'une réserve extrême en face des enfants et des jeunes gens. « Maman pleure ! Maman pleure !» cria l'enfant en devenant tout rouge et les yeux pleins de larmes. « Est-ce que vous l'avez grondé, papa Carlos ?»« Non, mon enfant, répondit la duchesse. « Je pleure de joie. »« Et pourquoi ?» demanda l'enfant, sur le visage duquel le sourire avait immédiatement succédé aux larmes. « Parce que demain, sans faute, répondit le duc, en le prenant par le bras et en se rapprochant de sa femme, nous partons tous pour la campagne. » L'enfant poussa un cri de joie, entoura d'un bras le cou de son père, de l'autre celui de sa mère, et, rapprochant leurs têtes, les couvrit tour à tour de baisers. En ce moment, la porte s'ouvrit et donna entrée au marquis d'Elda. « Papa marquis !» cria son petit-fils, « nous partons tous demain !»« Vraiment ?» demanda le marquis à sa fille. « Oui, mon père, et il ne manque qu'une chose à ma satisfaction, c'est que vous consentiez à nous accompagner. »« Mon père, dit le duc, pouvez-vous refuser quelque chose à votre fille, qui serait une sainte si elle n'était un ange ?» Le marquis regarda sa fille, dont le visage portait l'empreinte d'une joie profonde, puis le duc, qui montrait la plus grande satisfaction. Alors, un sourire plein d'affection adoucit l'austérité naturelle de sa physionomie, et, s'approchant de son gendre, il lui dit « Voilà ma main, tu peux compter sur moi !»